cause finale et cause efficiente au niveau métaphysique. On l'a déjà fait, mais je reprends, étant donné que c'est pas commode du tout. Essayez de saisir ce que représente justement le propre de la causalité finale au niveau propre de l'être, cette fameuse phrase d'Aristote qu'on doit essayer de comprendre, pas seulement répéter, mais comprendre comment dans l'ordre de la causalité, comment au plan métaphysique, il n'y a que deux causes propres de l'être, la cause formelle et la cause finale. Comment au niveau métaphysique, donc au niveau de l'être, il n'y a pas de cause propre efficiente. Il y a une cause ultime, mais pas propre. Et il n'y a pas de cause propre matérielle. C'est ça qu'on doit essayer de comprendre. Hein. La cause propre, c'est celle qui est saisie à travers une induction. Et à partir d'une induction. Comme ce qui est principe d'explication et qui est cause d'être. Donc quand je saisis l'être en acte ou l'acte de l'être, comme vous comprenez bien, c'est-à-dire quand je saisis l'acte au niveau, au terme de l'induction, je peux dire que l'acte est terme, il est fin de ce qui est, du point de vue de l'être. Et par le fait même, en regardant l'ordre qui existe entre l'être en puissance et l'être en acte, je peux dire que tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Par là, j'explicite ce qu'Aristote n'a pas fait. Je crois qu'on doit le faire. J'explicite le principe de causalité finale. Le principe de causalité finale au niveau métaphysique, hein, comprenez bien. Parce que la plupart du temps, le principe de causalité finale, je reste au niveau éthique ou au niveau de l'activité artistique. Alors, restant au niveau éthique et au niveau de l'activité artistique, je comprends la causalité finale liée à la causalité efficiente. Forcément. Je comprends ce qu'est le bien qui m'attire et qui me finalise. Et je comprends l'œuvre que je suis capable de réaliser, qui est à la fois fin et effet. Tandis que dès que je me place dans la perspective métaphysique de ce qui est en tant qu'être, je dépasse tout l'aspect des opérations humaines. Qu'il s'agisse d'une opération morale ou d'une opération du facere, je me place au niveau de ce qui est du point de vue de l'être. Donc, l'opération humaine s'arrête à la métaphysique. J'en suis désolé, mais c'est comme ça. Et je suis obligé d'entrer dans quelque chose de bien plus abrupt, saisir ce qui est comme être. À ce moment-là, j'essaie de saisir ce qu'il y a d'ultime dans l'être. Et j'interroge. Qu'est-ce qu'il y a d'ultime dans l'être? Qu'est-ce qui est fin de l'être? Et je découvre par mode d'induction l'être en acte, distinct de l'être en puissance. Je compare les deux et je peux, à partir de là, dire tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Je crois que c'est la seule manière pour nous de saisir le point de vue de la causalité finale au niveau métaphysique, c'est-à-dire au niveau de l'être. Tandis que quand il s'agit de la cause efficiente, cherchez, vous ne trouverez jamais. Il n'y a pas saisie d'une cause efficiente propre de ce qui est comme être. Pourquoi ? Parce que la cause efficiente, pour moi, est toujours liée au devenir. Elle est toujours liée au mouvement. Elle est toujours liée à l'opération. Or, je viens de dire, l'opération cesse, ne pénètre pas dans le point de vue métaphysique. les portes de la justice l'empêchent. Ça doit rester avec les hommes à double tête. Ils ont double tête puisqu'ils peuvent l'avoir, le fat chéré et l'agir. Alors ça, c'est propre de l'activité humaine. Je pénètre dans le domaine « il est ». Et c'est vrai, c'est ça que je cherche, « il est ». Or, « il est », en tant qu'il est, il ne devient pas. L'être, en tant qu'il est en acte. Il n'a donc pas de possibilité de devenir. C'est ça qu'il faut saisir. Donc, il n'y a pas de causalité efficiente propre de ce qui est du point de vue de l'être. Mais il y a, ajoutez ça tout de suite, pour que vous ne vous effarouchiez pas en tant que croyant, mais il y a une cause ultime et première qui regarde l'être en acte, c'est ce qu'on appelle la création. Mais la création, je ne la saisis pas immédiatement. Tâtez le pouls de la réalité qui est autour de vous et de vous-même, vous ne découvrirez pas immédiatement que vous êtes une créature. Vous découvrirez que vous êtes. Et vous ne découvrez pas que vous êtes une créature. Immédiatement. Dire que cette réalité est une créature, il faut la dénommer à partir du Créateur. Alors je peux, ayant découvert l'être premier, acte pur, que nous appelons Dieu, découvrir le lien qui existe entre cet être premier et les autres réalités, et comprendre que ce lien est un lien de dépendance radicale dans l'ordre de la cause efficiente qui regarde l'être et l'essai. Mais ce n'est pas une cause propre de ce qui est. Donc vous voyez toute la différence qui existe entre la cause finale, qui est l'intelligibilité la plus profonde que je peux avoir sur l'être. Et c'est pour ça que c'est seulement par la cause finale que je peux remonter jusqu'à l'existence d'un être premier. Si je me sers de la causalité efficiente, puisque je n'ai pas de cause propre efficiente au niveau de l'être, je me sers donc d'un principe de causalité efficiente au niveau du devenir. Or, dans le devenir, il n'y a pas de premier. Je peux toujours remonter. Je peux toujours aller plus loin. Dans le devenir, il n'y a pas de premier. Ça, c'est très vrai. Le devenir implique justement tout le temps la primauté de la puissance par rapport à l'acte. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de premier. Donc, j'espère que vous voyez ça. C'est difficile, hein, on est au sommet, c'est l'arête. Alors évidemment, c'est très très difficile. Nos pauvres mots qui sont tellement conditionnés par notre philosophie du devenir, notre philosophie du mouvement, notre philosophie éthique, notre philosophie du fat chéré, nos pauvres mots nous font toujours glisser vers la découverte d'une cause propre et si efficiente au niveau métaphysique. Mais ça, c'est pas juste. Exactement comme il n'y a pas de cause propre matérielle de l'être. C'est l'autre grande purification. Celle-là, elle est fondamentale, et l'autre, elle est très importante. C'est très vrai que quand on regarde les efforts métaphysiques, je pense ici à Rosmini. Rosmini est quand même un bon métaphysicien. Quelqu'un qui avait le sens de la métaphysique. Eh bien, Rosmini aurait voulu découvrir le point de vue du Créateur. Il aurait assez facilement défini la métaphysique, assisté à la création. On pourrait mettre ça sur le cours métaphysique. Ici, vous assisterez à la création. Ce serait magnifique, hein, si je pouvais, avec un regard métaphysique, assister à la création. Mais je ne peux pas, avec un regard métaphysique, assister à la création. Je suis trop myope. Myopie beaucoup trop grande au point de vue de l'intelligence. Je ne peux pas assister à la création. Pour assister à la création, il faut la foi. Alors, le croyant assiste à la création. C'est le privilège du croyant. En tant qu'il est croyant, il croit au Dieu créateur et il regarde tout dans la lumière du Dieu créateur. Il regarde tout dans la lumière du Verbe. Et voit que tout dépend du Verbe. Mais je ne peux pas philosophiquement, quand je pose la création, je la pose comme une conclusion. Et donc la cause efficiente ultime, c'est une conclusion, c'est pas du tout une cause propre. Je la pose comme une nécessité, étant donné qu'il existe un être premier et que j'existe, que mon être n'est pas un être qui est premier, pur dans son acte, mais qui implique la potentialité. Donc mon être est un être participé. Si mon être est un être participé, nécessairement il dépend de la première causalité efficiente qu'on appelle création. Et le mot création provient des traditions religieuses. Il ne faut pas l'oublier. Il vient des traditions religieuses exactement comme le mot Dieu. Mais je touche et je situe exactement la nécessité de la création. Je la situe dans une conclusion de sagesse. Je ne peux pas la situer autrement. Je ne la découvre pas immédiatement. Donc, je n'assiste pas à la création. Je dis la création est nécessaire. Ça ne peut pas être autrement. Puisqu'il existe ces êtres imparfaits et qu'il existe un être premier qui est parfait. Il faut donc essayer de comprendre le lien qui existe entre les deux. L'imparfait existe par le parfait. Celui qui est premier, vraiment, polarise tout. Donc voyez comment on peut essayer de mieux saisir comment il n'y a pas de cause efficiente au niveau métaphysique. Il n'y a pas de saisie de la cause, disons ça, hein, parce qu'il n'y a pas de saisie propre de la cause efficiente au niveau métaphysique. Je ne peux pas induire la cause efficiente au niveau métaphysique. C'est là où je vois la limite de la métaphysique, vous voyez ? Et que cette limite est difficilement acceptable. Il y a là quelque chose devant lequel je me casse la tête. Il faut l'accepter. Il faut accepter qu'il y a là un arrêt qui m'empêche d'aller plus loin. Et je suis obligé de faire tout un grand tournant stratégique pour découvrir le lien qui existe entre les réalités créées et l'être premier. Les réalités telles que je les vois et l'être premier. Et de les dénommer créatures. Tout le monde voit bien ça, j'espère. Hein? Parce qu'on l'a vu plusieurs fois, il faut secouer, je sais, les choses dans différents aspects. C'est très important, je crois que c'est très important, parce qu'autrement on encombre notre intelligence. Encombrer son intelligence au niveau métaphysique, c'est terrible, ça fait des confusions. La métaphysique est une purge, hein. Pour retrouver la pureté et la limpidité de l'intelligence qui regarde la réalité telle qu'elle est, dans sa plus grande profondeur, et qui voit que la réalité telle qu'elle est, il n'y a que deux regards. C'est pour ça qu'elle est si simple, la métaphysique. Parce qu'il n'y a que deux regards, la cause formelle et la cause finale. Il n'y a que l'ousia, la substance, et l'acte. C'est extrêmement simple. Évidemment, c'est vertical. Et l'autre, c'est dans les profondeurs. Bon, l'autre question. Ne peut-on pas regarder le lien de l'effet à la cause en dehors du devenir ? Exemple, dans la génération du Fils par rapport au Père dans la très sainte Trinité. Peut-on dire que le Père est cause efficiente du Fils ? Alors, vous voyez tout de suite, hein, ne vous servez pas du mystère pour être métaphysicien. Le mystère n'est pas fait pour ça. La très sainte Trinité n'est pas faite pour que nous comprenions la causalité efficiente. La très sainte Trinité est faite pour qu'on la contemple et qu'on l'adore. C'est très important ça. Oui, c'était comme le père Gérard des Lauriers, j'avais déjà cité cette chose à quelqu'un, c'était quelque chose de très extraordinaire. Le père Gérard des Lauriers disait, grâce à la très sainte Trinité, j'ai un nouveau concept de la relation. J'ai une relation substantielle et subsistante. Alors évidemment, ça change tout pour toute la métaphysique de la relation. La relation n'est plus seulement l'être le plus débile, il est aussi fort que la substance. Et c'est vrai, quand j'attribue à Dieu la relation, dans l'ordre de la création, dans l'ordre de la vision de la très sainte Trinité, en voyant que les distinctions des personnes se font par le point de vue de la procession, et donc c'est une relation d'origine, je ne comprends rien de cette relation. Je l'affirme, mais je ne la comprends pas. Si je saisissais le quid de cette relation, je saisirais la très sainte Trinité. Je saisis l'existence de cette relation, et je dis cette relation ne peut être que comme cela, donc négativement. Ça, c'est la pauvreté de la théologie. Vous voyez, alors on veut toujours récupérer, retrouver. C'est vrai, on a un exemple merveilleux, la très sainte Trinité. Mais ce n'est pas un exemple au niveau philosophique. Je n'ai aucune expérience philosophique du mystère de la très sainte Trinité. Alors, je réponds très rapidement, parce que je pourrais dire, ça ne regarde pas la métaphysique. Ne peut-on pas regarder le lien de l'effet à la cause en dehors du devenir ? Eh bien, n'oubliez pas que la théologie part de la foi. La foi me montre qu'entre la première personne et la seconde personne, il y a un lien de communication au-delà de toutes les causalités. Et je ne peux plus analyser. J'analyse au niveau création, mais pas au niveau de la très sainte Trinité. Et c'est pour ça que le mystère de la très sainte Trinité, le seul moyen de l'atteindre au point de vue théologique, c'est de se placer du côté de la vie. C'est une communication vitale. Alors vous allez me dire, une communication vitale, c'est une communication qui implique la causalité efficiente. Oui. Mais c'est une communication vitale, première et substantielle, qui fait que parce qu'elle est substantielle, elle est au-delà de toutes les analyses que je fais. Et donc vous ne pouvez pas récupérer la cause efficiente à l'intérieur de la procession divine du Père et du Fils. Vous ne pouvez pas. Ce serait malsonnant au niveau théologique. C'est pour ça, quand on dit, peut-on dire que le Père est cause efficiente du Fils ? Non. On ne peut pas dire que le Père est cause efficiente du Fils. Parce que le Fils serait effet. Et le Fils n'est pas effet. Il est le fruit de la contemplation éternelle du Père. Vous voyez ? Je ne regarde pas ça au point de vue de l'être. Je le regarde au point de vue de la vie. C'est ça qui est très important à voir. Ce qui montre très bien que lorsqu'il s'agit de la très sainte Trinité, je suis dans une certaine opacité, beaucoup plus grande que lorsque je regarde le mystère de la création. Quand je regarde le mystère de la création, je suis à l'aise, métaphysiquement. Et ce que la foi me dit, je peux saisir, métaphysiquement, analogiquement, je peux saisir ce qu'est cette création. Comprenez, je ne saisis pas le TST, hein, comprenez bien. Je saisis le comment elle n'est pas. Et je peux quand même saisir quelque chose de plus immédiat. Le lien entre l'être premier et les êtres seconds. Tandis que quand il s'agit de la très sainte Trinité, je ne me place plus du côté de l'être. Je me place du côté de la vie. Ça va très loin, vous savez ça. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. Parce que le point de vue de la vie n'analyse pas de la même manière que l'être. L'analyse la plus poussée, c'est du côté de l'être. Du côté de la vie, il y a une immanence qui fait que je ne peux pas arriver à une analyse aussi poussée. Mais je n'insiste pas plus, hein, parce que ça, c'est quelque chose de très important, mais c'est d'ordre théologique. Et alors, on me dira que je fais de la théologie après. Alors, je ne veux pas faire de théologie, je veux rester dans notre objet propre, la métaphysique. Bon, nous avons vu, je reprends pour que vous voyez bien, nous avons vu comment, au terme de l'induction, nous saisissions l'être en acte et l'acte en puissance. Nous avons essayé à ce moment-là de réfléchir sur ce que c'est que la ratio actus. Qu'est-ce que ça représente ? Je saisis l'être en acte et je saisis l'être en puissance. Si je le saisis et que j'affirme, il y a donc nécessairement une certaine saisie. Mais cette saisie n'est pas quiditative, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au niveau des catégories. Déjà la substance, hein, mais a fortiori quand il s'agit de l'être, quand il s'agit de l'acte. Et il faut comprendre à ce moment-là que l'acte est au-dessus de la forme, de toutes les déterminations. Alors c'est le très gros problème. Est-ce que ça a encore une signification ? Puisque la signification, pour moi, la plupart du temps, c'est au niveau des catégories. Alors dire que l'acte a peu de signification, vous comprenez, c'est très très dangereux. Ça voudrait dire que quand je le saisis, je suis dans le bleu. Je ne vois plus rien du tout. Je ne vois plus rien du tout. Je suis complètement obnubilé par cette lumière extraordinaire de l'être en acte. Alors, c'est pas vrai. Je saisis quelque chose. Je saisis quelque chose. Mais c'est très difficile à exprimer, parce que mon langage est toujours au niveau de la saisie des formes. Ma manière de connaître est toujours per modum quiditatis, par mode de quidité, c'est-à-dire je saisis tout de cette manière particulière qui m'est donnée dans les catégories. C'est le premier tiesti que je saisis. Mais il y a un second tiesti, vous voyez, faites un tout petit peu ça pour que vous saisissiez mieux. C'est important et c'est difficile. L'immense avantage du TST, l'interrogation, qu'est-ce ? Hein, traduisez qu'est-ce ? Alors, l'interrogation TST me fait découvrir en premier lieu les formes quiditatives. C'est là où je saisis les catégories. Donc, par mode de quidité, per modum quiditatis, c'est la forme quiditative. C'est un logos, hein, n'oublions pas, c'est un certain logos. Certaines saisies, des déterminations, des formes quiditatives, ce sont des déterminations génériques, spécifiques, propres. Là, tout ce qu'on appelle les prédicables, hein, vous verrez ça en logique. Alors, vous saisissez par mode quiditatif. Et ça aboutit à la définition. Comprenez bien que la définition n'est pas encore du domaine philosophique. Il y a des gens qui définissent parfaitement et qui ne comprennent rien à la philosophie. La définition n'est pas du domaine proprement philosophique. C'est un domaine propédeutique. Les 6 premiers mois de la métaphysique. Vous avez le droit de définir et d'y rester, c'est ce qu'il y a de mieux, n'est-ce pas ? De rester à la définition. La définition, c'est quelque chose que nous possédons, c'est notre avoir. C'est pour ça qu'on l'aime tant. Et les définitions regardent les catégories. Bon, ça, c'est la première manière d'interroger. Je crois que tout le monde peut saisir ce premier tiesti. Tout le monde. Tout le monde peut saisir la propédeutique philosophique. C'est ouvert à tout le monde. La propédeutique philosophique. C'est cette interrogation à l'égard de la réalité, on saisit les diverses déterminations. Les déterminations fondamentales, c'est-à-dire génériques, les déterminations spécifiques qui sont propres de telle chose, les déterminations propres quand je ne saisis pas le spécifique. Bon. Deuxième interrogation du TST. Aristote la pose au livre Zeta. Quel est le tiesti de l'ousia ? Quel est le tiesti de l'être, du toor ? Donc je suis ici non plus au niveau de la forme, mais au niveau de l'être. Et donc il y a un dépassement. Le tiesti, l'interrogation du tiesti, va saisir ce qui est source de toutes ces déterminations. Et c'est l'ousia, la source. Et quand je pose l'interrogation du tiesti par rapport à l'ousia, je saisis bien la source de toutes ces déterminations. Et cette source de toutes ces déterminations est donc à un au-delà de ces déterminations. Là, je saisis un principe. Je saisis une cause.
dans l'ordre de l'être.
Je ne suis plus au niveau de la définition. Vous ne pouvez pas définir l'ousia. Si vous l'avez défini, ça prouve que vous ne l'avez pas saisi. C'est-à-dire que vous l'avez saisi au niveau catégorie. Mais vous ne l'avez pas saisi au niveau métaphysique. L'ousia est au-delà de la définition. Et c'est là l'entrée en métaphysique. Hein. Propédeutique, l'entrée. J'entre en métaphysique quand je me suis posé la question « Qu'est-ce que c'est que la substance ?» Le TST de la substance au niveau de l'être. Pas au niveau de sa fonction grammaticale, mais au niveau de l'être. Troisième interrogation du TST, qu'est-ce que c'est que l'acte? Le TST au niveau de l'acte. C'est toujours le TST, hein? C'est ça qui est très curieux. Mon intelligence a un appétit forcené, hein? Parce qu'elle veut saisir le TST de l'acte. Elle ne se contente pas de saisir les catégories, elle ne se contente pas de saisir la substance, elle veut aller plus loin. Et nous avions vu pourquoi. Elle ne peut pas s'arrêter à l'ousia. Elle ne peut pas s'arrêter à la substance. Elle est obligée d'aller plus loin. Parce que, de fait, dans le jugement d'existence, ceci est, c'est un dépassement de l'ousia. Et donc, je suis obligé de me poser la question, qu'est-ce que c'est que l'acte? Le TST de l'acte. Alors, c'est ici où ça devient très difficile, vous comprenez? Parce que, évidemment, c'est un au-delà des catégories. Tout à fait d'accord. C'est un au-delà des catégories. C'est aussi un au-delà des catégories. J'allais presque dire, c'est un au-delà de l'ousia. Alors faisons attention, un au-delà de l'ousia, est-ce que c'est tout à fait juste? Non, c'est quelque chose d'à côté. Vous savez, quand on fait deux tranchées qui n'ont pas tout à fait la même orientation, se rencontreront jamais. Il ne faut pas passer par l'ousia pour découvrir l'acte. Tandis que je passe par les catégories pour découvrir la substance. Et je passe par les catégories pour découvrir l'acte. Ça, c'est sûr. Et je passe par le mouvement et les états particuliers. Donc, je ne peux pas dire au sens absolu que c'est un au-delà de la substance. Si je disais que c'était un au-delà de la substance, je relativiserais l'ousia. Je relativiserais la substance. Et alors, elle ne serait plus principe. Puisque le principe, c'est ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Donc, c'est quelque chose que je saisis, quelque chose qui détermine mon intelligence, et c'est vrai, c'est ça, l'ousia, ça détermine profondément mon intelligence, mais ce n'est pas suffisant, ça ne détermine pas d'une manière exhaustive mon intelligence. Ça la détermine réellement, mais mon intelligence veut plus, elle a un appétit qui va plus loin, et elle a un appétit qui veut saisir l'acte. Ce qu'il y a d'ultime dans l'ordre de l'être. Ici, c'est ce qu'il y a de fondamental, la source. Ici, c'est ce qu'il y a d'ultime. Ce qu'il y a d'ultime dans l'ordre de l'être. Alors, cet ultime est évidemment, lui aussi, au-delà des catégories. Et au-delà de l'exercice. Je crois que c'est ce qu'il faut dire. Au-delà de l'exercice. Au-delà de l'efficience. Au-delà du fluxus, vous pouvez continuer. C'est propre de l'acte d'être au-delà de l'exercice. Tant que je reste dans l'exercice, je reste dans l'efficience. Je reste dans la causalité efficiente. Je reste dans le fluxus. Or, c'est au-delà. Et c'est pour ça que je pars des deux états. Je vais d'un état à l'autre. Je dors et je suis éveillé. Allez, je dors et je suis éveillé, c'est pas un dépassement de l'ousia. Puisque c'est la même ousia. Quand vous dormez, c'est vous. Du moins, j'espère. N'est-ce pas? Et quand vous vous réveillez, c'est vous aussi. C'est la même réalité, c'est la même personne qui est dans deux états différents. Un état d'imperfection quand je dors. Un état de perfection quand je suis éveillé. Du moins, si je suis bien éveillé. Alors, si je suis bien éveillé, un état de perfection. Il y a un passage entre les deux. Il y a un exercice entre les deux. Il y a un fluxus entre les deux. Qu'est-ce qui vous a réveillé? On sait très bien. Il faut bien une cause efficiente. Un petit marteau qui vous réveille, n'est-ce pas? Pour essayer de se réveiller, n'est-ce pas? Alors, il y a quelque chose, vous savez, quand on visite la Chartreuse, on vous montre la Chartreuse d'ici, on vous montre un moine qui avait une peine énorme de se réveiller. Alors, il avait inventé, comme c'était un, il avait une faculté d'invention extraordinaire, et la dernière manière pour se réveiller, c'était quand ça sonnait, quand c'était l'heure, le lit se renversait. Alors, à ce moment, vous voyez, la cause efficiente. Je donne ça comme exemple de la cause efficiente. C'est la cause efficiente, vous passiez du sommeil à être réveillé. Et là, c'est la cause efficiente, donc l'exercice, l'efficience. Eh bien, l'acte est au-delà. L'acte, il n'est pas causé par l'efficience, il est au-delà. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Oui, c'est un très bon exemple à garder, parce que il est quelque chose d'assez particulier. Alors, vous avez le tiesti de l'acte, qui est un au-delà de l'exercice, un au-delà de l'efficience, un au-delà du shuksus. Et il est ce qui termine. Il est fin de l'être. Alors, vous voyez, il y a un tiesti. Donc, il a une signification. Alors, c'est ça qui est très difficile. Et je crois qu'il faudrait, philosophiquement, comme aujourd'hui, on est dans le problème de la signification, il faudrait comprendre la signification au numéro 1, la signification au numéro 2, la signification au numéro 3. Il y a une signification, il y a une saisie. Alors vous voyez tout de suite, la méthode phénoménologique nous permet de saisir ce tiesti numéro 1, mais pas celui-ci, numéro 2, ni celui-ci. Alors si vous êtes enfermé dans cette méthode, vous ne saisirez jamais la signification de l'ousia, ni la signification de l'acte. Et vous resterez enfermé dans l'intentionnalité. Parce que les catégories peuvent s'enfermer dans l'intentionnalité. C'est la définition. La définition, c'est le point terminal de l'intentionnalité, au niveau de la signification numéro 1. Alors évidemment, quand j'ai défini quelque chose, je me demande si ça existe dans la réalité. Et je suis dans une très belle prison dorée. J'ai défini. J'ai un avoir. Alors, comment puis-je sortir de là? Comment puis-je dépasser cela? Tandis que quand je suis au niveau du tiesti de l'ousia ou du tiesti de l'acte, le jugement d'existence est présent. Il est présent dans le principe. Il est présent dans ce qu'il y a d'ultime. Je ne peux pas saisir un principe métaphysique en mettant entre parenthèses le jugement d'existence. Tandis que je peux saisir la définition en mettant entre parenthèses l'existence. Oui, la mise entre parenthèses de l'exister. C'est très important de saisir ça. Alors là, vous comprenez tout de suite la différence de pénétration du tiesti au niveau des catégories, au niveau de l'ousia, au niveau de l'acte. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y en a encore un numéro 4? Eh bien, heureusement, non. Il n'y a pas de numéro 4 au point de vue de la signification. Quand vous découvrez l'être premier, vous n'êtes plus dans l'ordre de la signification. Donc, la signification ultime, c'est l'acte. C'est vraiment la signification ultime, avec le dépassement des catégories, le dépassement de l'exercice. Quand vous découvrez l'être premier, vous le faites à travers un jugement d'existence. Et vous affirmez une réalité qui vous dépasse complètement. Ce n'est pas un principe. Je ne saisis pas l'être premier comme un principe. Je saisis l'être premier comme une réalité existante. Je dis ça pour que vous compreniez mieux, n'est-ce pas ? Et que vous compreniez qu'il y a les trois niveaux. Alors, c'est très extraordinaire, je dis ça pour ceux qui s'intéressent à saint Thomas, c'est très extraordinaire que saint Thomas, dans son commentaire de Die Trinität de Boès, parle de l'appréhension au niveau qualitatif, au niveau de la ratio actus. Et puis, il met antérieurement, vous voyez, moi j'ai mis 3, parce que je suis resté tout de suite au niveau philosophique et pré-philosophique, je ne vais pas en mettre un avant. Alors là, je suis à un niveau tout à fait commun. On saisit quelque chose de confus. Je reste dans le brouillard. C'est le tout confus.
Vous comprenez que tout confus, vous ne chargez pas de le définir. Hein.
Le tout confus, c'est quelque chose de très très lié à l'imaginaire. C'est de l'ordre de la représentation, le tout confus. Ce n'est pas proprement l'ordre de la signification. Vous passez de la représentation du tout confus, qui implique une image, à la saisie des catégories. Les catégories ne sont pas au niveau de ce tout confus. Ce tout confus, il existe. Hein. C'est notre première manière de saisir les réalités. Et quand on commence à faire de la métaphysique, c'est un tout confus. Disons, on dit, il y a quelque chose, il y a un gibier derrière, mais c'est un tout confus. Et alors, petit à petit, le gibier se lève. Alors, on découvre les catégories, pro-séminaire. On découvre les catégories. Puis alors, après, on entre dans la saisie du principe, l'ousia. Et puis, au terme, la saisie de l'acte. Et alors, à ce moment-là, on est armé, métaphysiquement. Parce que si vous restez uniquement à ce niveau-là, vous comprenez que votre métaphysique, elle n'est pas parfaite. Vous disiez, le fondement, c'est déjà beaucoup. Vous voyez, alors quand on dit que la métaphysique d'Aristote est une ousiologie, puisque l'expression est consacrée, alors quand vous dites que la métaphysique d'Aristote est une ousiologie, où est-ce que c'est ce niveau de la métaphysique d'Aristote? Je crois qu'on le ramène aux catégories. On ne saisit pas le principe. Et on ne saisit pas l'acte. Alors, vous voyez, vous ramenez Aristote à quelque chose qui est pré-philosophique et qui n'est pas la philosophie d'Aristote. Donc à ce moment-là, vous n'entrez pas vraiment dans la philosophie d'Aristote. Je crois qu'on peut dire d'une certaine manière que la philosophie de Platon est une ousiologie. D'une certaine manière. J'aimerais pas dire ça. Parce que Platon dépasse le point de vue de la substance pour atteindre le bien. Et donc, s'il y a ce dépassement, il n'est pas... Mais, je dirais que ce serait plus vrai, parce que la substance et l'être s'identifient. L'être simplicitaire, l'être pris d'une façon absolue. Bon. Après avoir vu ça, nous avons essayé de comprendre l'antériorité de l'acte sur la puissance. Très gros problème et très intéressant. Mais je ne vais pas m'attarder trop, puisque nous l'avions vu pas mal au séminaire, avec le livre Theta. Mais je crois que c'est très important de bien saisir cette antériorité du côté de l'intelligibilité. L'acte est principe. S'il est principe, c'est lui qui porte l'intelligibilité ultime. C'est pour ça que je dis, il implique une signification, puisqu'il n'est pas irrationnel. L'acte n'est pas irrationnel. Vous n'allez pas saisir l'acte en étant irrationnel. Non, c'est l'intelligence, c'est pas la raison. Oui, ça serait intéressant aussi de se demander ici jusqu'où la raison, la ratio intellectus, oui, saint Thomas, la ratio intellectus. Quand saint Thomas prend ratio intellectus, eh bien, je crois que la ratio est ici et l'intellectus est ici. Et on fait une petite coupure. Hein. Il faut bien découper le poulet. Hein. Il faut le découper bien. Bien, la ratio, c'est vraiment les catégories. La ratio définit. Et l'intelligence saisit les principes. L'intellectus. Alors, ne séparez pas. Hein. Comprenez que intellectus et ratio, c'est la même faculté. C'est le même nous. C'est le nous d'Aristote. Aristote disait que le nous avait diverses opérations capables de raisonner, logismos. Le nous logismos, c'est la raison. Capable de définir. Le nous qui juge et le nous qui saisit les indivisibles. Vous voyez ? Alors vous retrouvez, je crois, quelque chose d'assez analogue, c'est pas tout à fait la même chose, mais au fond, le point de vue de l'intellectus et la raison. Donc, quand j'essaie de comprendre l'antériorité de l'acte sur la puissance, je vois d'abord une antériorité du côté de l'intelligibilité. Je ne peux pas connaître l'être en puissance sans connaître l'être en acte. Ça, il faut le saisir au niveau métaphysique. pas au niveau logique, au niveau métaphysique. Au niveau métaphysique, je ne découvre l'être en puissance qu'à partir de l'être en acte. Tandis qu'au niveau logique, je suis capable de connaître en premier lieu l'être en puissance. C'est ce qui caractérise la logique. C'est ce qui nous attire, du reste, c'est ce qui nous séduit. Et alors, toute confusion qui se fait entre la logique et la métaphysique, on voit tout de suite où vient la confusion. On fait passer devant le possible. Et on connaît en premier lieu le possible. Et à partir de là, on sait très bien toutes les conséquences. Donc il faut saisir la priorité de l'acte sur la puissance au niveau de l'être, au niveau de l'intelligibilité. Deuxièmement, il faut comprendre la priorité de l'acte sur l'être, de l'acte sur l'être en puissance, au niveau de la causalité. Vous savez bien la distinction que fait Aristote entre cause et principe. Le principe est au niveau de l'intelligibilité et la cause est au niveau de l'être existant ou du devenir. Toujours bien se rappeler ça. Autrement dit, quand vous parlez de causalité, vous parlez toujours d'une dépendance dans l'ordre de l'être ou une dépendance dans l'ordre du devenir. Tandis que lorsque vous parlez du principe, vous ne parlez pas nécessairement d'une dépendance dans l'ordre existentiel, de l'exister, ou une dépendance dans l'ordre du devenir. Donc la première chose que je regarde, parce que toujours le principe a une universalité plus grande que la cause. Alors il faut bien saisir ces deux aspects-là. Il faut bien saisir que l'acte est premier selon l'ousia, par rapport à la puissance. Il est premier dans l'ordre de l'exister, selon l'ousia. Il a une perfection dans l'ordre de l'exister. Alors, comment comprendre cela? C'est que justement, l'acte est quelque chose d'ultime. S'il est quelque chose d'ultime dans l'ordre de l'exister, il est ce à quoi je ne peux rien ajouter. Tandis qu'au contraire, l'être en puissance est essentiellement ordonné, dépendant. Puisqu'il n'existe pas en tant qu'être en puissance par lui-même. Tandis que l'être en acte existe par lui-même en tant qu'être en acte. Alors, ce qui est immédiatement relié à l'exister, par soi, est antérieur à ce qui n'est relié à l'exister que d'une manière intermédiaire, par quelqu'un d'autre. Je crois que c'est la manière la plus simple pour nous de comprendre cela. L'être en puissance contient l'essai et le non-essai. Ça, vous pouvez très facilement comprendre ça. L'être en puissance contient directement l'essai et le non-essai. L'être possible. L'être possible est ordonné à l'essai, est ordonné au non-essai. Donc, ordonner à l'acte d'être et d'ordonner au non-non-être, au non-essai, donc à la négation. Alors, comprenez bien que l'être possible ne pourra être actué par l'essai que par l'intermédiaire d'un autre. Tandis que l'être possible possède en lui-même l'ordre vers le non-essai. Donc, le non-essai est plus proche du possible que l'essai, selon le conditionnement du possible. Au plan métaphysique, c'est l'inverse. Mais selon le conditionnement de ma connaissance du possible, vous voyez, c'est très curieux. Le possible est lié au non-essai. S'il n'y a pas d'intervention, il reste lié au non-essai. Le possible demeure lié au non-essai. Pour qu'il passe à l'acte, il faut l'intervention d'un autre. Donc s'il faut l'intervention d'un autre, ça nous fait très bien comprendre comment le possible n'est pas immédiatement relié à l'essai. Il est relié à l'essai par un autre, tandis qu'il est directement lié au non-essai. Je crois que c'est ça qui nous fait le mieux comprendre comment, au point de vue métaphysique, l'être en acte est premier par rapport à l'être possible.